Et le journal est présenté par Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Londres valide le projet de Hinkley Point. EDF va donc pouvoir construire en cofinancement avec les Chinois les deux EPR prévus pour 2025 outre-Manche. C'est un investissement colossal, plus de 20 milliards d'euros. Nous serons en ligne avec notre correspondant Antoine Gignot et puis nous verrons que les syndicats chez EDF se montrent moins enthousiastes. Force ouvrière a donné son sentiment à Cécile de Kervas-Doué. Dernière manifestation contre la loi travail dans les rues de France. Plus de 100 cortèges aujourd'hui. Nous irons à Paris avec Annabelle Grelier pour ce baroud d'honneur des syndicats. Le procès de la rixe de Cisco s'est bien ouvert à Bastia en Corse. Le tribunal n'a pas craint pour la sérénité des débats. Nous verrons avec Marie-Pierre Véraud l'ambiance sur place où sont jugés à la fois les jeunes Marocains accusés d'avoir eu un comportement de caïd et les villageois qui ont bien failli les lyncher. C'est une décision qui marque la relance du nucléaire en Europe, rien de moins, estime le PDG d'EDF. Il est vrai que le Royaume-Uni n'avait pas construit de nouvelles centrales depuis 1995 et que le secteur de l'atome souffre encore de la catastrophe de Fukushima. C'est donc un accord qui était très attendu. Le gouvernement de Theresa May valide la réalisation de deux réacteurs EPR à Hinkley Point, près de Bridgewater, là où se trouvent de vieilles centrales de type Manioc qu'il faut arrêter. Londres donne donc son feu vert au projet d'EDF qui sera aussi cofinancé pour un tiers par le géant chinois du nucléaire CGN. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Londres. Les EPR représentent un investissement de plus de 20 milliards d'euros. Le contrat est assorti d'un certain nombre de conditions, Antoine, et il est jugé crucial par les Anglais.
Oui, à vrai dire, le gouvernement n'avait pas vraiment le choix. Ce sont les experts de la Warwick Business School qui le disent. Il existe aujourd'hui 8 centrales nucléaires au Royaume-Uni. Une seule sera encore opérationnelle après 2030. Et pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, le pays va devoir fermer ses centrales à charbon qui produisent aujourd'hui encore un tiers de l'électricité. Il fallait donc valider Hinkley Point ou s'éclairer à la bougie, mais pas question pour autant de donner à Pékin un droit de regard sur la production de l'électricité britannique. Car la centrale est financée aux deux tiers par EDF, mais le dernier tiers vient des investisseurs chinois de CGN, géant du nucléaire, qui propose désormais de construire deux autres réacteurs. Le premier à Bradwell, dans l'Essex, le deuxième à Sizewell, dans le Suffolk, ce qui leur assurerait un rôle de premier plan dans le pays. Et c'est ce qui explique le feuilleton de ces dernières semaines. Avant de donner le feu vert et de lancer officiellement la construction d'Hinkley Point, la première ministre voulait s'assurer qu'aucun des partenaires, et donc particulièrement les Chinois, n'aurait la possibilité de changer d'avis en cours de route ou de vendre ses parts à une autre société. C'est donc une collaboration un peu tendue qui va commencer. L'agence Chine Nouvelle salue cette décision ce soir, mais ajoute « il y a un sentiment anti-chinois qui plane toujours et qui pourrait entraver le projet ».
Merci beaucoup Antoine Gignot à Londres. En France, en tout cas, cocorico, le ministre de l'Industrie Christophe Sirugue y voit l'affirmation de l'excellence française et rappelle que 4500 emplois sont en jeu dans l'Hexagone. J'ai rappelé tout à l'heure la satisfaction du patron d'EDF, mais il faut dire aussi que le scepticisme des syndicats règne dans cette même entreprise. On se souvient que le directeur financier d'EDF, Thomas Piquemal, a démissionné en mars dernier pour protester contre le lancement de ce chantier pharaonique. EDF investissait pour lui la quasi-totalité de son patrimoine dans une technologie EPR qui n'a pas encore fait ses preuves. Discours assez similaire chez les syndicats. Cécile de Kervas-Doué a joint Serge Gianorsi, qui représente Force ouvrière chez EDF.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un constructeur d'automobile lance une production à des milliards d'exemplaires d'un véhicule sans que le prototype n'ait fonctionné? Je pense pas. Et à l'échelle du nucléaire, les investissements et le risque financier pour EDF nous apparaissent très dangereux. Ce qui nous inquiète, c'est que nous ne savons pas si la construction de ces EPR et des mises en service vont respecter les délais qui vont être contractualisés avec la Grande-Bretagne. Et si les délais ne sont pas contractualisés, ça entraînera obligatoirement un surcoût pour EDF. Ça veut dire que c'est les concitoyens français qui paieront également la note. Donc voilà. C'est pour ça que nous nous opposons au lancement de ce projet à ce stade. Nous ne contestons pas le projet. Nous nous sommes positionnés pour le projet Hinkley Point, mais en le repoussant de 3 ans.
Le délégué syndical FO à EDF avec Cécile de Kervas-Doué. Théoriquement, l'EPR britannique doit entrer en fonction en 2025. Celui construit pour l'instant en Finlande a déjà accusé 9 ans de retard. L'Inde est sur le point de conclure finalement son accord définitif sur l'achat des 36 chasseurs Rafale, achat à Dassault Aviation. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure un haut fonctionnaire du ministère indien de la Défense. Le contrat serait signé le 23 septembre prochain. C'est évidemment à prendre encore au conditionnel. En France, les syndicats auront organisé tout de même une centaine de manifestations aujourd'hui pour protester contre la loi travail. C'est la 14e et dernière journée de mobilisation. Le texte a été voté. Certains décrets d'application ont déjà paru. Mais les protestataires ne veulent pas en rester là. Bonsoir Annabelle Grelier. Vous rentrez du cortège parisien, 40 000 personnes à compter la CGT, 12 000 dit la préfecture de police. En tout cas, les manifestants restent remontés contre une loi El Khomri vécue comme une trahison et ils ont bien décidé de continuer à se battre.
Plus que jamais déterminé.
Pas d'amertume, mais de la détermination. C'était en effet le maître mot de cette 14e manifestation anti-loi travail. Malgré sa promulgation cet été, François Grazza, secrétaire général de la Fédération des cheminots de force ouvrière, n'y voit là en tout cas aucune défaite.
Moi, personnellement, je me réjouis que l'intersyndicale ait tenu bon. Ce n'était pas gagné d'avance. Certains oiseaux de mauvais augure avaient dit que ça ne durerait pas longtemps. Ben, force est de constater que c'est l'inverse qui s'est passé depuis plusieurs mois.
Pour Younes, militant CGT, il fallait être encore là aujourd'hui pour dénoncer une loi faite uniquement pour les patrons.
Avec la loi, qu'est-ce qui va se passer demain? On sera dans la capacité de pouvoir donner envie aux salariés de se révolter aussi, de ne pas se laisser faire. Parce qu'ils se laissent faire maintenant. Ils ont peur, ils disent voilà, demain je vais te licencier, je peux même le doter dans les amortissements pour dire voilà, ça c'est mon budget pour virer les gens. Voilà, et j'embauche des gens au SMIC ou en temps partiel, des heures complémentaires comme moi qui ne seront pas payées. C'est ce qui m'est arrivé, hein. C'est ce qui a fait que j'ai participé aussi à la grève.
Aussi à la grève, Alain Babin de la Fédération des banques et assurances CGT lui estime que cette loi est faite surtout pour le grand capital.
Dans l'esprit capitaliste, plus principalement aussi celui des financiers, ben cela veut dire que pour accroître les résultats, il y a une capacité d'abaissement de la masse salariale. Et la masse salariale, c'est quoi ? Ce sont les salaires, les cotisations. La Société Générale a commencé avec des fermetures d'agences. LCL est confrontée à des suppressions de postes. Les autres, bien sûr, n'y échapperont sûrement pas, sauf si les salariés comprennent le sens de la mobilisation.
Une mobilisation qui, pour un temps, ne se fera plus dans la rue, mais sur le terrain juridique et au sein des entreprises, comme l'ont annoncé Force Ouvrière et la CGT.
Merci beaucoup, Annabelle Grelier. En Corse, le procès a donc bien lieu et dans le calme, pour l'instant, à Bastia, la justice tente d'éclaircir la rixe qui a failli tourner au drame à Cisco. C'était le 13 août dernier, à la barre, un Marocain de 33 ans et ses deux frères, qui ne sont pas venus témoigner au procès, décrits comme des caïds, ils ont voulu privatiser la plage de Cisco, dit le procureur. Une violente bagarre a alors éclaté, impliquant des habitants du village voisin. Un boulanger de 50 ans et un jeune employé de mairie comparaissent eux aussi pour avoir failli lyncher les jeunes Marocains. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Tara.
Alors il y a un léger décalage, vous êtes à Bastia, accompagné de Laurent Lucas pour les moyens techniques. Le procès s'est bien ouvert tout à l'heure, les avocats craignaient pour la sérénité des débats, ils avaient demandé un dépaysement de l'affaire. Le procureur général ne les a pas suivis. Quelle est l'ambiance Marie-Pierre ?
Eh bien écoutez, très attentif dans la salle, hein, devant les grilles du palais se sont rassemblées plusieurs centaines de personnes. Elles arborent un t-shirt avec l'inscription « Siamo tutti a Fianca Boy », nous sommes tous avec vous. Mais à l'intérieur, le public se presse, tout acquis lui aussi aux habitants de Cisco qui sont poursuivis pour violence en réunion. Tous deux sont d'ailleurs là, le boulanger, Lucien Straboni, carrure d'athlète, et Pierre Baldi, employé municipal, le pompier volontaire de 22 ans. Du côté des trois frères marocains, donc seul Mustapha qui avait été écroué est présent. Alors en ce moment même, la cour examine le déroulement des faits de ce fameux 13 août avec minutie et dans l'ordre chronologique, et cela prend du temps car, comme le note la présidente, dans ce dossier, personne ne relate les faits de la même façon. De fait, Mustapha Benadou, qui est poursuivi pour violence en réunion avec arme, a des trous de mémoire. Il se souvient juste d'avoir secoué le jeune Jerry, 18 ans, ce qu'il dit regretter. Les versions continuent à s'affronter. On entend des rires dans la salle quand Mustapha dit se sentir plus corse que le jeune corse. Chacun, en tout cas, dit s'être senti en danger. Les coups, c'est toujours l'autre. Les insultes aussi. Le tribunal devrait continuer à démêler les chevaux des faits durant une bonne partie de la soirée.
Marie-Pierre Véraud, merci. On se rappelle les manifestations de protestation qui ont suivi Cisco au cri de « On est chez nous ». Marie-Pierre, vous avez enquêté sur ces démonstrations de force qualifiées de racistes par votre premier interlocuteur, André Pacou, qui préside la Ligue des droits de l'homme en Corse.
Ok.
Bon, d'accord.
Et qu'on devrait entendre dans quelques instants.
entre les jardins de l'empereur et ce qui s'est passé après la rixe de Cisco, on peut faire un parallèle. Vous avez en fait trois événements. Vous avez le premier événement qui est des faits de délinquance. Agression de pompiers au jardin de l'empereur à Ajaccio, une rixe sur une plage à Cisco. Ensuite, vous avez un mouvement de soutien devant des grilles de préfecture à Ajaccio comme à Bastia, avec des élus, des syndicalistes, des amis. Ce mouvement-là lui-même, il a des ambiguïtés, mais on est encore dans une logique, je dirais, qui n'est pas antidémocratique. Par contre, ce qui est important, c'est que ce soit au Jardin de l'Empereur ou que ce soit effectivement à Cisco, vous avez des gens qui vont réussir à détourner une partie de ces mobilisations devant les préfectures et qui vont les transformer en expéditions punitives dans les quartiers populaires d'Ajaccio ou de Bastia au cri de « on est chez nous », « rabifore », volonté d'aller en découdre. C'est cette partie-là, nous, qui nous interpelle en tant que militants des droits de l'homme. Et sur cette partie-là, les pouvoirs publics, aujourd'hui, n'agissent pas, ne disent rien. Pour l'instant, on reste dans l'impunité. Donc, ces manifestations-là, comme d'ailleurs les autres manifestations racistes et xénophobes sur le réseau social, c'est bien là, pour nous, que se niche le danger numéro un et sur lequel nous demandons aux pouvoirs publics d'agir.
Cette frilosité des pouvoirs publics rencontre en écho l'ambiguïté des mouvements nationalistes corses à l'égard de groupuscules d'extrême droite qui ont noyauté ces manifestations, ce que déplore Jean-Jacques Porchez, militant associatif.
Le problème au milieu des nationalistes, alors qu'ils ont pris position sur le droit du sol, sur la communauté de destin, il y a un certain nombre de militants nationalistes qui sont en désaccord avec cette communauté de destin, qui sont pour le droit du sang, etc. Mais ils sont toujours membres des mouvements nationalistes. Je ne parle pas des groupuscules d'extrême droite qui n'en sont pas membres. Le problème, il n'y a jamais eu un argumento à l'intérieur de ces mouvements sur ces problèmes-là, car je pense que stratégiquement, la majorité qui est pour le droit du sol et de vivre ensemble ne veut pas faire une lutte politique contre une partie de leurs militants, car ils ont peur, au moment des élections, que ce courant, s'il se bagarre contre lui, ne les soutienne pas, et les échéances électorales sont proches, et c'est extrêmement important. Les mouvements nationalistes ne veulent perdre aucune voix.
Si les nationalistes ont remporté les élections territoriales, nul n'a en effet oublié sur l'île que Marine Le Pen était arrivée en deuxième position lors de la présidentielle de 2012, avec plus de 20% des voix.
Dossier signé Marie-Pierre Véraud, en Corse. Le tribunal correctionnel s'est donné pratiquement 3 mois pour rendre sa décision dans l'affaire Cahuzac. Ce sera le 8 décembre prochain. Le parquet a requis hier de la prison ferme contre Patricia et Jérôme Cahuzac et 5 ans d'inéligibilité contre celui qui était présenté comme le chantre de la rigueur sous François Hollande. Et cet après-midi, Florence Turm, l'heure était aux plaidoiries de la défense.
Nous avons détesté Monsieur Cahuzac, j'ai détesté Jérôme. L'avocat et ami Jean-Alain Michel s'est installé à la tribune du côté du public, venus nombreux assister aux plaidoiries, manière sans doute de se placer au milieu de la vindicte populaire qu'il va dénoncer en dressant le portrait de l'autre Jérôme Cahuzac, celui qu'il a choisi de défendre. Ce n'est pas seulement un tricheur, mais quelqu'un qui a été adoré par ses électeurs. L'intérêt public l'a habité durant des années, il a déjà beaucoup payé, au sens propre comme au figuré. C'est tout l'enjeu de la défense. Dans l'impossibilité de plaider l'innocence, il s'agit d'éviter à Jérôme Cahuzac la prison ferme requise par le procureur. A-t-il besoin d'être surveillé? Interroge Jean Veil à son tour. Faut-il donner des gages à l'opinion publique? Inéligibilité, oui. Suppression du droit de vote à la rigueur. Un sursis au cas où il recommencerait, suggère encore l'avocat. En prison, on n'a pas de place, on en a besoin pour des personnes très dangereuses. Et puis, plaisante-t-il, je n'ai aucune envie que mes impôts servent à entretenir Jérôme Cahuzac. Rire dans la salle. La juste peine, reprend son confrère, c'est celle d'un homme qui a dissimulé 800 000 euros en l'espace de 20 ans, celle qui n'accable pas plus que nécessaire un homme fini, cassé, fracassé, celle qui permet le rachat et un avenir. Sur sa chaise, Jérôme Cahuzac s'essuie les yeux avec un mouchoir blanc. Il ne dira qu'un dernier mot à la barre pour remercier le tribunal de lui avoir permis de dire les choses le plus dignement possible au cours de ce procès.
Florence Turm. En Syrie, la Russie affirme que les soldats de Bachar al-Assad ont commencé leur retrait aux abords d'Alep, sur la route de Castello, pour pouvoir laisser passer les convois humanitaires. L'Observatoire syrien des droits de l'homme dément ces allégations, mais affirme que les rebelles sont eux aussi toujours présents sur la zone. Moscou accuse Washington de ne pas faire assez pression sur l'opposition syrienne et de retarder ainsi l'acheminement de l'aide humanitaire. Qui dit vrai? En tout cas, les convois de médicaments et de vivres sont toujours bloqués à la frontière avec la Turquie. L'ONU déplore cette situation. 250 50 000 civils sont piégés dans Alep. La trêve est en vigueur depuis lundi soir. En bref, encore les déclarations très attendues de Lula da Silva au Brésil. Le parquet demande au juge Sergio Moro d'inculper l'ancien président brésilien, accusé d'avoir été, je cite, « le chef suprême du réseau mis en place autour de Petrobras ». L'ancien responsable politique a toujours nié ces accusations et donne en ce moment même une conférence de presse. Comment réduire les inégalités à l'école ? C'est l'objet du rapport annuel de l'OCDE intitulé « Regard sur l'éducation » et publié aujourd'hui. L'organisation internationale s'appuie sur une trentaine de critères comme les salaires versés aux enseignants, la taille des classes ou encore les budgets alloués par les États et ceux dans 35 pays. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Tara.
Ce rapport nous montre, Hakim, qu'en 2013, la France investissait plus dans le secondaire que dans le primaire.
Oui, ainsi globalement, la France s'en sort mieux. Si la France s'en sort mieux aujourd'hui par rapport il y a encore quelques années, et on voit que par exemple il y a aujourd'hui 45% des 25-34 ans qui sortent de l'université avec un diplôme du supérieur, eh bien on constate qu'il y a encore des efforts à faire, notamment sur le niveau pédagogique dans le primaire, comme l'explique Éric Charbonnier, responsable du département éducation à l'OCDE.
Au primaire, on a plus d'heures de mathématiques et de compréhension de l'écrit en France que dans tous les pays de l'OCDE aujourd'hui. Si on a un volume horaire très important en compréhension de l'écrit, mais qu'on fait rien pour aider les élèves qui ont des difficultés de lecture en début d'année à commencer à savoir lire avant la fin de l'année, on aura échoué dans ce système, quel que soit le nombre d'heures de compréhension d'écrit. C'est pour ça qu'il faut aller vers une éducation plus différenciée, où on passe plus de temps avec les élèves qui ont des difficultés.
Alors, cela aura passé aussi par un rééquilibrage des moyens, puisque selon l'OCDE, en 2013, eh bien, la France accordait près de 9 000 euros par an et par élève au lycée, contre 5 800 à l'école primaire. Alors, ce chiffre s'explique aussi par un montant élevé, aussi grâce et à cause, entre guillemets, des classes préparatoires qui coûtent 15 000 euros par an. Pour Christian Chevalier, secrétaire général de l'UNSA, il ne faut pas voir qu'une politique élitiste en matière d'éducation.
Un pays a besoin bien évidemment d'une élite, mais il a aussi besoin que l'ensemble de sa population soit formée, soit bien formée, puisqu'on sait aujourd'hui que les enjeux économiques, sont aussi des enjeux de formation, de conception de plus en plus complexes d'objets techniques, technologiques, et c'est bien par l'éducation que cela passe.
Conscience sous geste politique, Najat Vallaud-Belkacem a annoncé pour la rentrée une hausse des moyens de 12,5% pour l'école primaire.
Merci beaucoup Hakim Kasmi. Puisqu'on parle école, partons pour Marseille où la rentrée a été un peu acrobatique. On se souvient des images choc de ces établissements primaires dont le plafond s'effondrait. Le maire Jean-Claude Gaudin et l'État ont entrepris d'urgence des travaux dans 250 écoles. C'est un reportage d'Isabelle Dore.
C'est Charlotte Magri, institutrice dans une école des quartiers nord, qui avait lancé l'alerte en février. Elle avait directement écrit à la ministre de l'Éducation nationale.
Quand vous avez face à vous 25 élèves qui tremblent de froid et qui respirent de l'amiante, on avait un diagnostic amiante depuis 2007 et un bout de mur qui est tombé sur mes élèves, des fenêtres qui ne peuvent ni s'ouvrir ni se fermer correctement dans les classes, donc il fait très très chaud en été et très froid en hiver parce que le chauffage n'est pas non plus entretenu ni réparé quand ça dysfonctionne. Moi, j'ai ressenti une urgence d'agir. Comme j'ai travaillé dans différentes écoles à Marseille et que j'ai des collègues avec qui j'échange, j'ai pu malheureusement constater que c'était loin d'être une exception.
Ce témoignage et bien d'autres qui ont suivi avaient provoqué une vague d'indignation. La municipalité avait été sommée d'entreprendre des travaux et c'est ce qu'elle a fait avec de gros efforts, souligne Daniel Casanova, l'adjointe au maire chargée de l'éducation et des écoles.
400 chantiers dans 271 écoles. Vous savez que le maire a décidé de consacrer 40 millions de travaux dans les écoles, plus 1 million sur le fonctionnement, sur l'année 2016. Hein, et en continuant cet effort sur les années 2017 et 2018.
Il reste beaucoup à faire.
Il reste encore des bâtiments qui ont été construits dans les années 60, 52 bâtiments à reconstruire. Et ça va être lancé au prochain conseil municipal.
Tant qu'à réaliser des travaux, autant le faire savoir. Sur les écoles en rénovation, un grand panneau bleu indique « La mairie modernise votre école. Un peu de pub ne peut pas faire de mal. » Des travaux ont été effectués, d'autres sont en cours ou en prévision. Et le syndicat SNUIPP des Bouches-du-Rhône a lancé une enquête pour avoir l'avis des enseignants sur ces rénovations. Claire Billès, sa secrétaire générale.
Dans les réponses qu'on a, les travaux qui ont été faits ne correspondent pas forcément à ce qui était attendu par les collègues. C'est-à-dire effectivement effectivement, il y a eu des travaux, mais peut-être un petit peu à la va-vite, peut-être pas toujours adaptés. Ça a pu être, par exemple, des petits travaux de réfection de peinture alors qu'on attendait de résoudre des problèmes de sécurité. Ça peut être des choses comme ça. On a vu dans certains endroits des problèmes thermiques un peu lourds. Oui, il y a eu des travaux, on a mis du film plastique sur les fenêtres. Ça va pas pouvoir durer. Donc après, on est bien conscient qu'il y a un effort de la mairie qui est fait depuis l'an dernier. En même temps, faut pas se leurrer, il y a un effort aussi parce que l'État s'en est mêlé. On va être attentif de toute façon toute cette année et les années qui viennent à ce que cet effort perdure.
Même sentiment chez les parents. Séverine Gilles est la présidente du mouvement des parents d'élèves du département.
Sur ces travaux-là, pour une partie, les parents sont satisfaits. Il y a eu des rénovations de toilettes, il y a eu des choses comme ça. Après, il y a énormément de choses encore à faire sur énormément d'école, l'isolation passera par le changement des fenêtres. Les écoles avec l'amiante, rien n'a été fait sur les écoles avec l'amiante. Et c'est des chantiers énormes. Il ne faut pas que ça s'arrête là. C'est un démarrage qu'il va falloir continuer et des efforts conséquents vont devoir être mis par l'État et par la municipalité pour qu'à Marseille, on revienne à un niveau acceptable au niveau de l'état des écoles. Donc c'est qu'un début.
Et ça va coûter très cher.
Voilà, dossier signé Isabelle Dore. Un tout petit mot du temps très rapide. Et ben, il va pleuvoir partout demain sur l'Hexagone.